Bonjour, je m'appelle Soigny, bienvenue du côté de chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de, pourquoi pas, retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti! De retour du côté de chez Soigny, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour achever aujourd'hui notre série sur le statut de bouc émissaire au sein d'une cellule familiale toxique. Depuis deux épisodes déjà, on s'appuie sur l'extraordinaire analyse du psychologue américain Dee Reed et sur son livre bouleversant de justesse Growing Up as the Scapegoat to Narcissistic Parents, sorti en 2023. Livre très intéressant parce que la focale est assez différente. En général, on parle de narcissisme pour traiter de relations sentimentales et rarement on tombe sur des bouquins aussi précis, aussi bien décrit sur ce que c'est qu'un enfant qui se retrouve face à un parent narcissique. Sujet tellement intéressant que même ma psy, lorsqu'elle m'a vu avec le livre dans les mains, a pris la référence pour pouvoir faire des recherches elle-même. Et je vous remercie pour vos messages, j'ai pu voir qu'en effet le sujet faisait écho, résonnait chez vous, et donc je suis ravie de savoir que vous avez été, comme moi, happée par cette analyse, par cette étude de Dee Reed. Un peu comme si tout d'un coup la personne piégée dans ce rôle était vue, était reconnu, était identifié, puisqu'il nous montre avec grande précision les ficelles de la perversion parentale dans ces cas-là, et surtout les effets à la chaîne sur la santé mentale de cet enfant. Donc on a vu dans la première partie comment faire sens de ce qui est arrivé lorsque l'on a grandi de cette manière, qu'est-ce qu'un parent narcissique exactement, pourquoi et comment il agit, qu'est-ce que l'on entend par bouc émissarisation, et puis quels sont ses symptômes et les effets à long terme. Ça c'était la partie 1. Dans une deuxième partie, on a traité de la question du no-contact et de la séparation avec sa famille d'origine, aussi bien toxique que radioactive. Et donc là, épilogue aujourd'hui avec le pilier 3 de guérison proposé par l'auteur, vivre dans la défiance de cet écosystème qui sent le souffre. Car même après avoir fait sens du trauma que représente le fait d'être élevé par un parent psychopathe, même après s'être coupé de cet environnement, l'impact de cette matrice se prolonge dans le temps. Le bouc émissaire, même lorsqu'il s'éloigne de cet environnement infernal, reste envahi de culpabilité. Même s'il réalise qu'il n'a pas vraiment le choix pour protéger sa santé mentale, l'action concrète de se détourner des personnes qui l'ont accompagné bon gré mal gré depuis son enfance reste colossale. Et bien que cette culpabilité soit attendue et légitime, d'où vient-elle, questionne l'auteur dans son livre donc Growing Up as the Scapegoat to Narcissistic Parent. Il nous invite à saisir que l'environnement psychique de cet enfant est précisément ce qui le place aujourd'hui dans cet état de fragmentation intérieure. Toute sa vie, il s'est retrouvé en carence affective, et ce malgré les efforts déployés pour plaire aux parents. Il a eu beau tout donner, sa famille l'a quand même accusé d'être égoïste, d'être insensible, etc. Toute sa vie, il s'est donné en sacrifice pour quelques miettes en retour, avec donc comme conséquence une confusion latente. Pour le ou les parents, ses efforts, tous les efforts de leur entourage de manière générale, leur sont dus, parce qu'ils sont plus importants que les autres. Et donc chercher à être heureux, pire, être heureux sans le parent, loin du parent, c'est donc avoir le sentiment de lui donner raison. On l'a vu dans les épisodes précédents, le seul bonheur qui compte est celui du parent. Dans cette configuration, la case bonheur de l'enfant est vidée de sa substance et préemptée par le bonheur parental, seul légitime. Et donc forcément, après avoir été élevé comme cela, toute individuation, toute tentative de trouver son propre équilibre en marquant de la distance fait peur. Le bouc émissaire a l'impression, abus oblige, d'être responsable dans une certaine mesure de ce parent, de ses émotions, de ses réactions, bien qu'il n'en soit rien. On comprend donc aisément que l'idée de défier une règle primaire comme celle qui postule la toute hégémonie du parent sur le concept de bonheur soit d'ordre à déstabiliser et à plonger le bouc émissaire dans une certaine culpabilité, voire une culpabilité certaine. Pourquoi ? Parce que si vous aviez pris ce chemin enfant, vous auriez pu ne pas survivre. Et votre système nerveux se souvient de cette zone radioactive qu'est le respect de soi, la tentative de s'individuer face à un parent psychopathe. Et donc la personne se dit, je ne devrais pas être heureux sans que le bonheur du parent soit garanti et favorisé d'abord. Si quelqu'un doit renoncer, c'est moi. Si quelqu'un doit reculer, c'est moi. J'occupe un espace que l'on m'a interdit d'occuper et je fais quelque chose de mal. Alors qu'en réalité, la personne cherche juste à réunir les conditions de sa dignité et agit de manière complètement légitime. Sauf que le faire, après avoir été gaslighté et après avoir subi un lavage de cerveau, donne l'impression de commettre un péché. Il déroge au culte du tout-puissant narcissique. Et cette culpabilité est naturelle, si l'on se souvient que pour survivre, cette personne a dû prêter attention en priorité à tout ce qui relevait de l'être intérieur du parent tyrannique et psychopathe. On va faire avec ma voix cassée aujourd'hui, je suis de retour à Paris, retour au froid, mon organisme doit se réhabituer. Donc à l'âge adulte, si vous leur demandez comment ils vont, eh bien ces personnes auront du mal à vous répondre de manière authentique, parce que cette qualité de présence à soi n'a pas pu être cultivée, hein, on le comprend. Pire, ça pouvait les mettre en danger. Et donc, il y a des adultes qui arrivent en thérapie et qui ne savent pas nommer leurs émotions, qui ont besoin d'avoir une carte avec les émotions et leurs différentes caractéristiques pour reconnaître leur état, parce qu'ils ont tellement désinvesti leur corps, leur esprit, de leur propre individualité, que ça fait plus sens. Comment je me sens, je n'en sais rien. Ce qui compte, c'est d'être à l'extérieur, d'être vigilant, d'observer ce que les autres pensent pour pouvoir me protéger de leurs réactions potentielles. Je suis à l'extérieur de moi-même. Et on comprend bien en passant qu'indépendamment du niveau d'intelligence, du capital culturel, social d'une personne, eh bien ce délogage de sa propre intériorité, de sa propre dignité, est ce qui fait de ces personnes des proies. Si à chaque fois que vous ressentez A, l'autre vous dit qu'en réalité ce qui se passe c'est B, et que votre enfance ressemble à ce que l'on a décrit dans les deux derniers épisodes, eh bien on peut comprendre comment s'opère la mise en jachère de l'intelligence dans la relation aux autres, pas que sentimentale, aux autres en général. Dans toutes les relations, si vous n'êtes plus dans votre corps, si vous avez été vidé de votre substance, si vous êtes traversé par la honte, et que pour vous c'est servir, apaiser, plaire, satisfaire qui va vous protéger du réel, eh bien forcément, l'enfant devenu adulte reste tristement en compatibilité directe avec tout cet écosystème de psychopathologie. Psychopathe, sociopathe, pervers narcissique, parce que ce sont des personnes qui vont parasités, qui vont vouloir préempter votre liberté, votre souveraineté, votre libre arbitre, et qui vont donc utiliser ce flottement, ce caractère liquide finalement du sens de soi, qui peut être remodelé, qui peut être refaçonné, qui n'a pas vraiment d'ancrage sûr. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pourquoi les pervers narcissiques font tant de dégâts? Mais parce que l'une de leurs tactiques les plus connues consiste à vous bombarder d'attention, d'amour, de gentillesse, d'absolu, de fusion. Imaginez ce que ça fait au cerveau d'un bouc émissaire qui n'a jamais connu cela, qui a toujours dû être sur le qui-vive, peur du manque, peur que le parent l'abandonne. Et donc là, tout d'un coup, on vous fait une perfusion d'amour dosée à 100%. Pourquoi d'ailleurs ils le font? Parce que en réalité, les pervers narcissiques ne croient pas mériter l'amour, donc ils n'ont pas le temps. Ils doivent vous distraire vite, vous encenser, vous idéaliser, et tenter de s'individuer pour retrouver un sens de pouvoir. Mais ce love bombing est une distraction, et vous vous retrouvez chimiquement pris dans leur filet, surtout si votre enfance ressemble à la vallée de l'ombre de la mort décrite par Jerry dans son livre, c'est-à-dire humiliation, rejet, abandon, mise à l'écart, rabais, etc. Et donc la perfusion d'amour qui est chargée à bloc va vous transporter dans les nuées, et évidemment que c'est pervers parce que ça marche. Dans cet état de dénutrition, de désertion affective, vous voyez les dégâts que ça peut faire. Qu'est-ce qui se passe dans une relation avec une personne qui n'est pas narcissique et qui ne va pas vous love-bomber? Elle arrivera peut-être à la même conclusion, que vous êtes une personne formidable avec beaucoup de valeur, mais elle va le faire de manière logique, factuelle, dans le temps, par étapes, parce qu'elle vous connaît, pas tout de suite de manière indifférenciée en vous bombardant d'un amour qui n'est même pas incarné puisqu'elle ne vous connaît pas. Ça n'a rien à voir avec une partition qui est prête à jouer pour vous ensorceler. Mais le narcissique est incapable de nouer des relations de manière authentique, graduelle, progressive. Tout se fait très vite au début, et on voit l'humanité des personnes qui se retrouvent aux prises avec ce type d'individu. C'est pas juste de la romance pour ceux qui le vivent, cela touche vraiment à des notions de survie. Survie de cette partie qui a été anémiée depuis l'enfance. Parce que s'il n'avait pas réussi à se soumettre aux parents pour tenter de le satisfaire, eh bien le bouc émissaire se serait senti déserté, abandonné, annihilé. Et l'idée aujourd'hui d'occuper son espace intérieur, c'est une chose qui est simplement sans précédent pour lui. Et donc on peut comprendre en toute logique que cela paraisse terrifiant, parce que pour cet enfant devenu grand, l'ombre guette toujours. Rien ne se désinstalle avec le temps, rien ne s'en va. On n'oublie ni le visage, on n'oublie ni la voix, tout est tapis dans les viscères. Et donc comment se détacher de cette anxiété d'individuation, d'avec le milieu narcissique? Eh bien en comprenant, nous dit l'auteur, que cette anxiété vient du sentiment erroné d'être responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. Revenir dans son corps pour se souvenir que nous sommes le personnage principal de notre narration. Nos mouvements intérieurs, nos frémissements, nos paniques, nous sommes ici, là, maintenant, dans ce corps, avec ses propres besoins, sa propre dignité, ses peurs, sa colère, sa rage. Et il faut faire remonter tout cela, le regarder enfin, le légitimer, l'adouber, le soutenir. Ne plus le fuir, ne plus s'évacuer. Et une fois que l'on comprend qu'il a fallu soutenir cette stratégie d'auto-abandon pour calmer un prédateur, Eh bien, on peut se demander, nous dit Jerrid, ce que cela signifierait pour nous aujourd'hui de ne plus se juger responsable du bien-être de ce dernier, qui reste dans la prédation. On ne guérit pas de la pathologie du narcissisme. Et ne plus se juger responsable du bonheur des autres, cela signifie tester de nouvelles relations où tout le monde tient en équilibre par lui-même. Sans que je passe mon temps à éteindre les incendies, sans que je passe mon temps à être une infirmière. Et là, c'est un lien évident avec l'épisode qui va suivre sur la codépendance, c'est ce livre qui est sorti il y a quelques semaines sur le sujet aux États-Unis, créé du lien avec des personnes qui sont sécurisantes factuellement par le fait de créer des liens avec de nouvelles communautés. Et tout cela est clé, nous dit l'auteur, pour soutenir ce réapprentissage du rapport à l'autre et à soi. On a appris à se désaimer, on doit réapprendre à faire l'inverse. Cela n'apparaît pas dans l'inertie, c'est sur le terrain, dans de nouvelles relations. Avant, on créait des liens en se disant « pourvu qu'il m'aime, pourvu qu'il m'accepte, qu'il ne se mette pas en colère ». Et aujourd'hui, l'idée c'est de se dire « comment je me sens ». Avec telle personne, à quel point je masque avec elle, comment je peux relier ses ressentis avec l'importance que je vais lui accorder. On peut se dire je vais moins donner, ou rien donner d'ailleurs, à ceux qui m'activent négativement, et je vais plus donner aux autres. Je ne vais plus donner mon maximum à tout le monde de manière indifférenciée, je ne vais plus penser que tout le monde est gentil. Je vais accepter moi-même de ne pas être piégé dans le rôle de la bonne personne, et de simplement redevenir une personne, ombre et lumière. D'ailleurs, le postulat qu'ils seraient tous gentils, comme j'ai dû le croire enfant, était manifestement faux. Il n'en était rien, puisqu'on passe de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, à tout le monde il est psychopathe. Donc clairement, le gap est considérable entre ce qu'on avait peint et ce qui se trouve devant nous. Et donc comment voulez-vous identifier qu'une personne est un psychopathe si vous avez débranché la colère? Si vous avez débranché le jugement, le droit de juger, de critiquer, de ressentir viscéralement que telle et telle personne nous met mal à l'aise? Un gentil ne va pas repousser un psychopathe, il va le défendre, essayer de l'aider, faire preuve d'empathie. Et les parents narcissiques coupent vos réactions à leur supplice, cassent votre résistance parce qu'ils sont pervers, parce qu'ils sont dans une maladie mentale et non pas parce que consentir, hocher la tête avec l'air béat est une réaction humaine, instinctive, à l'annihilation de notre personne. L'auteur nous dit que non seulement le parent narcissique exigeait votre admiration, mais en plus il exigeait sans se targuer de vous donner quoi que ce soit en retour. Il vous a donc fait croire, au passage, que vous ne méritiez pas qu'il vous admire, et que vous ne méritiez certainement pas de vous admirer vous-même. Vous deviez vous contenter d'applaudir face à son prétendu caractère spécial, et guérir implique, nous dit Jerrid, de revenir à l'endroit que nous avons dû abandonner lorsqu'il fallait demeurer dans cette déférence. Et cet endroit, c'est notre propre expérience, celle que l'on a dû mettre sur mute. Rebrancher son corps, rebrancher la vérité qu'il nous transcrit, ses perceptions, et ce, à chaque fois qu'on interagit avec les autres. Et, dans cette configuration, se sentir digne ne passe plus par le fait d'être important aux yeux du parent narcissique. C'est comme ça que le cycle se rompt, nous dit-il. C'est comme cela que l'on sort de cette satanée bouc émissarisation. Ce qui peut donner l'impression d'ailleurs de perdre son orientation, son équilibre au départ, mais c'est en réalité une manière de faire de l'espace pour soi, le fameux soi qui a été vidé, déserté. Donc on retire la statue de l'idole lourde et imposante du parent, et dans l'espace vacant, on apprend timidement à revenir à notre propre incarnation, à mettre nos besoins au centre de notre dignité, et encore plus intéressant, nous dit l'auteur, on apprend que guérir ne requiert pas de prouver aux parents narcissiques ou à la famille en général qu'ils avaient tort. Inutile de prouver quoi que ce soit, inutile de se montrer sous son bonjour auprès de ce parent ou de sa famille, parce que le parent est et restera incapable de réciprocité, de réflexivité, d'attention, d'un rapport sain à lui-même, et que de toute manière, l'enfant l'a idéalisé. L'enfant a idéalisé une personne qui n'aurait en rien besoin de lui. Et l'on voit en réalité que le parent est dépourvu de ce pouvoir et génère, dans les faits, son sens de dignité uniquement en replaçant sa honte dans l'enfant et en l'humiliant. Le parent n'était pas puissant. Il générait son sentiment de puissance dans le fait de vous humilier et de prendre cette énergie vitale en vous. Donc revenir à la case parent pour régler quelque chose, ça revient finalement à continuer de croire que puissance il y avait. Et donc prouver qu'il a tort n'a donc pas de sens. Il ne pourra pas le reconnaître s'il ne veut pas collapser, on l'a dit dans l'épisode précédent, il devra toujours nier, et Jerrid nous dit que l'accepter, eh bien c'est ouvrir la place à d'autres sources de connexion bien plus à même de combler notre besoin de respect, d'amour et d'attention. Vivre dans la défiance des règles instaurées par le parent narcissique, c'est un long chemin. On parle d'abus qui pour certains perdurent encore. Donc évidemment qu'on va encore tomber sur des amitiés potentiellement avec des ficelles qui ressemblent à celles de l'abus. Évidemment qu'au travail ou en amour, les dynamiques vont à intervalles réguliers nous retrigger. Mais imaginez un cerveau d'enfant à qui tous les jours on a dit « tu vaux rien ». Ce que tu penses n'a pas d'importance, tu es insignifiant. Et donc si vous avez été bouc émissarisé, eh bien cet enfant c'est vous, quelques années plus tard, portant toujours les mêmes stigmates. Et donc, n'essayons pas de guérir trop vite, en rangeant tout sous le tapis pour rester convenable et adéquat, parce que dans cette pulsion à la guérison et à la perfection, eh bien il y a encore cette déshumanisation qui a été créée par le parent malade. On ne demanderait pas à une personne qui a été séquestrée 30 ans dans une cave de sortir de tout cela en s'insérant dans la société et en vivant une vie normale. Il y a des séquelles. Être un bouc émissaire, c'est un hold-up de son innocence, de son enfance, de sa liberté. Et donc il n'y a rien à prouver. Rien à prouver à personne dans une guérison rapide, ni aux parents, ni à la famille, ni à personne. Pour un bouc émissaire, tout est nouveau. Hors narcissisme dans une relation. Mettre des limites, partager sa part d'ombre, prendre de la place, avoir le droit d'être médiocre, ne pas être une bonne personne mais juste une personne, tout cela c'est nouveau. Et pour vous accompagner, pour ceux que ça intéresse, j'ai un cours sur la puissance qui est terminé et qui va être mis en ligne rapidement. J'en parlais déjà il y a un an et finalement j'avais pas eu le temps d'aller plus loin. Et donc ce sera un cours pour apprendre à faire moins bien, être moins bien, à réduire le niveau d'exigence que l'on a vis-à-vis de soi-même et à réclamer finalement sa part d'humanité, sa part juste. On en reparlera. Donc vivre dans la défiance, c'est réclamer ce qui a été sacrifié. Et ce qui a été sacrifié en vous, c'est ce qui vous rend extérieur ou indifférent à l'expérience positive que les gens ont de vous. Ce qui vous fait voir votre succès comme de la chance. Ce qui vous fait penser que les gens vous aiment parce qu'ils ne vous connaissent pas vraiment. Et beaucoup de boucs émissaires ignorent, nous dit Jerid, qu'ils peuvent avoir une expérience sécurisante d'eux-mêmes en restant tels qu'ils sont. Sans sauver personne, sans être surperformant. Parce que toute leur vie, ils ont porté le costume du « je suis honteux ». Et guérir, ça veut dire retrouver un sens de sécurité dans le fait d'être exactement comme vous êtes là, maintenant, sans costume. C'est ça la voie de la guérison pour l'auteur. C'est réclamer cet espace abandonné. Parce qu'on a oublié que le « je suis inférieur » était une ruse qui devait calmer la bête en face de nous. Ce parent ne devait rien voir en nous de valable. Il fallait cacher notre savoir-faire, toutes nos compétences, et performer la médiocrité. Mais toutes ces qualités de force, de dignité, de respect, de courage étaient bel et bien en nous, elles étaient simplement latentes. La souffrance du bouc émissaire, c'est qu'il a dû se convaincre qu'il n'avait pas ces attributs, alors qu'il les possédait bel et bien en réalité. La raison pour laquelle vous ne pouviez pas savoir que vous étiez plaisant ou attractif ou enjoué, c'est parce que le costume taillé par le parent n'aurait pas toléré que ces qualités ne soient pas en lui. Vous ne pouviez pas identifier votre courage parce que votre parent avait besoin que vous vous identifiez à sa lâcheté, à sa honte, à son manque de confiance, à son sentiment de ne pas mériter l'amour. Le costume vous disait d'un statut inférieur parce que le parent ne voulait pas voir cela en lui. Il vous a donc bouc émissarisé par la force. Et c'est la raison pour laquelle vous voir positivement vous paraît dangereux. Parce que s'il vous avait vu faire, eh bien vous auriez subi des conséquences. Durant l'enfance, vous avez peut-être embelli votre parent, mais l'auteur nous dit que le voir tel qu'il est, ou tel qu'ils étaient, effrayant, dangereux, blessant, sans posséder d'autres relais, d'autres soutiens, aurait été beaucoup trop compliqué pour cet enfant que vous étiez. Donc il a fallu des mécanismes de détournement, afin que le parent reste tout-puissant, bienveillant, dans votre esprit. Parce qu'il n'y avait personne d'autre chez qui aller de toute façon, donc il ne fallait pas voir le réel. Il fallait les embellir. Et évidemment, lorsque l'on a grandi de cette manière, eh bien les gens ont beau nous dire « tu es beau, talentueux, formidable », on n'y croit plus. Au point où l'auteur nous dit que lorsque vous vous sentez mal, il serait intéressant de vous demander si vous n'avez pas fait quelque chose dans les jours, heures qui ont précédé, qui aurait été en votre faveur, parce que vous êtes peut-être dans l'auto-punition, et que lorsque vous vous sentez bien, en dehors donc de ce parent narcissique, il y a comme un mécanisme de régulation qui va vous ramener à un état de honte, de solitude et de malaise pour rééquilibrer les choses, comme elle l'aurait été dans le foyer. Votre cerveau pense que vous êtes toujours en mode survie avec ce parent et veut évacuer pour vous automatiquement toutes les anciennes menaces du passé. Donc certains de ces patients, lorsqu'ils atteignent un succès relatif, se sentent confus, ne savent pas ce qui leur arrive, comme si le succès venait un peu de nulle part, n'était pas lié à leur qualité, à leur travail, à leur résilience. Donc il y a une correction en temps réel et un remodelage au format parental. Et montrer sa compétence aujourd'hui, bah, c'est faire quelque chose qu'une partie de vous associe au fait de perdre l'affection de quelqu'un. Et pour cette partie de vous, si vous réussissez, eh bien vous serez affectivement tout seul, déserté, abandonné. Donc leur colère, même posthume, plane, et cette partie a peur de ce qui pourrait se passer si vous reconnaissez vos forces. Le psychologue nous dit que nous pouvons faire preuve de compassion envers cette partie de nous en l'informant que, eh bien désormais, elle est en sécurité avec le succès, avec la reconnaissance notamment, et que vous pouvez désormais vivre votre plein potentiel sans craindre des représailles que vous auriez endurées dans le passé, et vous pouvez le faire de plus en plus longtemps, vous sentir en sécurité dans vos qualités de plus en plus longtemps, parce que c'est un nouveau langage, un langage qui s'apprend. Alors au début on est nul, on a deux mots, et puis on gagne en fluidité au bout d'un moment, mais il est sécure aujourd'hui de réclamer les parties de vous qui performent, qui expriment une qualité, il est sécure d'aller dans des relations où votre costume n'est plus nécessaire, où on ne vous rabaisse plus. Et parmi ces choses sacrifiées, eh bien, il y a aussi la joie, le fun, parce que c'est étranger pour le bouc émissaire. Le parent narcissique devait s'assurer que son enfant soit apathique. Le bouc émissaire doit être triste, porteur de sa honte. Et donc c'est incompatible avec l'idée de joie. Si son enfant saute dans tous les sens et resplendit de bonheur, eh bien le parent pense avoir perdu le contrôle sur sa grandiosité factice, à lui. Et être heureux en dehors de sa personne indique que votre bonheur peut valoir quelque chose en dehors de lui. Et ça, c'est hors de question. Donc il va tenter de vous dévaluer pour détruire cette menace d'individuation et ramener son enfant à la servitude, à l'évacuation de ses propres tourments psychiques. Certains boucs émissaires finissent même par penser que s'amuser est immoral et que seuls les accomplissements sont dignes d'effort, d'intérêt. Et la défiance passe donc par la joie, mais aussi par le fait de retrouver la parole dans son existence, ne plus sourire, ne plus accommoder tout le temps, y compris dans des conversations qui sont sans intérêt pour vous. Et certains de ces patients avaient d'ailleurs la sensation que s'ils ne hochaient pas la tête pendant une discussion, en se montrant en tout cas absorbés par l'auditeur, quelque chose de mal allait leur arriver, s'ils ne s'occupaient pas des gens, même dans une conversation, même avec un inconnu tout le temps, comme une programmation biologique. Et donc impossible pour eux de savoir ce qu'ils préfèrent dans une conversation. C'est comme s'ils parlaient à quelqu'un, créaient une éclipse, l'autre devenait une lune qui bloquait l'accès au soleil du soi, dit-il. Et d'ailleurs ces personnes, on retrouve sans surprise des enfants qui ont été élevés par des parents qui ont recouru à la rage, qui étaient instables, qui exigeaient de se sentir supérieurs, admirés, tout-puissants en tout temps. Et à l'âge adulte, eh bien, ces personnes se retrouvent dans des relations où leur voix est muselée à nouveau, où le côté performatif demeure, et exitent leur opinion, exitent leurs préférences et besoins. Il faut avoir l'air disposé, aspiré, conquis, avec une honte en soubassement. Évidemment, ce n'est pas leur faute. Après avoir été traités comme ils l'ont été toute leur vie, on peut penser que renoncer à eux-mêmes leur paraît comme un moindre mal, leur paraît comme quelque chose de sécure même. Et en relation, eh bien, ces individus continuent de sacrifier leur connexion à eux-mêmes pour faire corps. Alors comment retirer le masque ? Eh bien, en se connectant à des personnes qui vous traitent différemment, qui vous traitent à l'opposé de votre milieu narcissique. Des personnes qui comprennent l'importance de votre voix intérieure, de vos besoins. Et ces personnes sont de l'autre côté de la barrière qu'il faut mettre avec ceux qui vous maltraitent. C'est les personnes que l'on rencontre lorsque l'on a appris à se choisir, à filtrer, à repousser, à mettre des limites. Mais il y a vraiment une décontamination à faire parce que c'est un système pervers. Si je pense être aux antipodes du concept de confiance, eh bien du coup je n'exprime pas mon talent. Et donc je me prive des occasions de renforcer cette confiance. Et si en plus je suis dans un milieu qui est en cohérence, en communion avec cet abus, je n'en sors jamais. Et le conseil du psychologue, c'est de construire des relations avec des personnes qui ne sont pas narcissiques. Ça, c'est extrêmement important pour sortir le corps du mode danger, du mode suppression, du mode dissociation et transitionner, écoutez bien, de human doing à human being. De l'être faisant à l'être existant. Ça ne peut pas se traduire, mais passer de l'agir à l'être. Comment on sait que l'on est dans l'agir et non dans l'être ? Eh bien, lorsque l'on croit, nous dit-il, que ce que l'on est minute par minute dépend de ce que l'on pense à chaque instant. Lorsque l'on porte un sentiment de malaise partout, et lorsque l'on base qui l'on est sur nos pensées. Le human doing, il est basé sur ses pensées, ce que l'on pense de notre expérience. Pourquoi ? Parce que si nous sommes des human beings, donc si on est dans l'être, eh bien ce que l'on pense ne représente qu'une fraction de ce que l'on est, pas l'entièreté. Or, plus l'on pense, plus on agit sur la base de ce que l'on pense, et ce qu'il faut, c'est quitter le monde des idées pour s'intéresser au monde des ressentis corporels. Ce qui est naturellement difficile à concevoir lorsqu'on a bâti sa sécurité sur le fait d'avoir des pensées en vigilance tout le temps. Mais être, c'est découvrir ce qui constitue notre expérience immédiate à chaque instant. On ne peut pas être et être coupé de l'expérience immédiate des instants que l'on vit. Une personne dans l'être peut prendre les choses comme elles viennent et n'a pas besoin de penser à ce que les choses ont été, sont et seront. Parce que ça, c'est de la vigilance, c'est de l'anxiété. Elle peut remarquer ce qu'elle expérimente et y répondre spontanément. Human being. Le bouc émissaire, lui, est privé de cette immédiateté. Lorsque, dans l'enfance, par exemple, il se faisait mal, il se blessait en jouant, bien le parent, qui était occupé à autre chose, rentrait dans une colère parce qu'il devait freiner sa cadence pour répondre aux pathétiques besoins de son enfant. Et donc, il se mettait en colère, il lui criait dessus, « Mais tu fais jamais ce qu'il faut, tu fais pas attention, j'en ai marre, tu regardes pas où tu mets les pieds. » Et donc, demeurer dans l'être pour cet enfant aurait fait ressentir bien trop de souffrance, raison pour laquelle il s'est dissocié de sa vérité organique et a basculé en mode pensée, tu ne fais rien comme il faut, regarde dans quel état t'as mis maman, etc. Parce que si cet enfant arrête de penser, eh bien le ressenti le guette à nouveau. Donc il doit continuer de penser pour ne jamais ressentir. Et ça donne des adultes toujours dans l'action pour exactement les mêmes raisons. Au point où son identité devient une identité axée sur ses pensées et plus du tout sur ses expériences. Parce que la relation aux parents n'était pas assez saine pour attendre de voir comment les choses se présenteraient. Et le problème de cette identité basée sur les pensées, c'est qu'elle est fragile, par nature. C'est ce que nous dit Jerry, en tout cas. Ce « je pense donc je suis » veut dire que si je ne pense pas, je ne suis pas. C'est donc un piège où la condition de mon existence est la production d'un certain type de pensée et pas d'un autre, pour avoir l'air vraisemblable à mes propres yeux. Et vivre dans la défiance, c'est apprendre qu'il se tient sur un sol qui est désormais solide, cette fois-ci. Autre exemple, à chaque fois qu'il mettait son parent sur un piédestal, cet enfant devait se dire « mon père est tellement important que je ne fais pas le poids ». Et lorsqu'il faisait ça, il se coupait physiologiquement de tout ce qui n'allait pas dans le sens de ce postulat, et qui est les faits. Et lorsqu'il pense aujourd'hui « je ne peux rien faire de bien », eh bien, il cultive une identité basée sur le raisonnement, et non pas sur les faits, et ni sur son ressenti. Et tout cela explique pourquoi la distance avec la cellule narcissique doit être considérable si l'on veut réussir à décoller ce sens de soi, de la narration familiale, et des pratiques comme la méditation vont contribuer à ramener justement cette personne à l'intérieur de sa propre expérience immédiate. Là où tout cela est complexe, c'est que, bien sûr, et on l'a déjà dit, il y a eu des bons moments avec le parent narcissique, tout n'était pas sombre. Il y a eu des rires, il y a eu parfois des compliments, parfois un semblant d'intérêt, de l'affection ou des témoignages de reconnaissance devant les autres. Pourtant, si on regarde bien, l'attrait que représentaient ces moments, c'était surtout que, durant ces instants, le parent ne vous faisait pas de mal. Ce n'était pas un bon parent, il ne vous faisait juste pas de mal à cet instant. Et en parallèle, à chaque fois qu'il vous manifestait de l'attention, ils avaient un bénéfice direct ou indirect à le faire. Parfois, l'enfant en était conscient, d'ailleurs, et cela va compliquer sa capacité à faire confiance aujourd'hui, parce qu'il s'attend à ce que la gentillesse équivale à manœuvre, tactique, tromperie, manipulation. Vous voyez comment tout ça s'entremêle. Être dans ce statut de bouc émissaire, c'est avoir le sentiment que penser des choses positives sur vous va générer une issue catastrophique. Et tout cela, encore une fois, se challenge, mais en relation avec des personnes sécures qui vont vous apprendre que vous pouvez vous sentir bien avec vous-même et en même temps continuer d'entretenir des relations saines avec elles. Ça ne va plus menacer le noyau. Des relations dans lesquelles votre jugement compte comme quelque chose de valide et non plus seulement comme étant quelque chose de stupide et de dérisoire. Et désormais, même si les gens ne sont pas mal intentionnés, leur incapacité factuelle à produire de la sécurité pour vous constitue un indicateur valable pour considérer d'ajuster votre proximité à elles parce qu'elles ne répondent pas aux critères de sécurité dont vous avez besoin. auparavant vous considérez était une menace, donc vous deviez renoncer à vos besoins et abdiquer, sauf que ce n'est plus le cas. La guérison passe par des relations du présent dans lesquelles on va à l'inverse du modèle parental, dans lesquelles on est dans la défiance factuelle vis-à-vis de ce qu'on nous a appris. La défiance s'expérimente en acte. Et c'est vrai que les relations amicales sont impactées parce que beaucoup de boucs émissaires sont dans le rôle du dindon de la farce, y compris avec leurs amis. On se moque d'eux, on les rabaisse de manière plus ou moins subtile. Ils se retrouvent donc dans des relations où on les traite mal, où ils sont dévalués. Sauf que leur mécanisme d'empathie, elle revient, celle-là, eh bien, s'enclenche quand même. Et ils peuvent désormais décider comment on leur parle pour sortir de cette empathie toxique et comprendre que leur supposée erreur ne justifie pas qu'on les maltraite. Et que donc l'empathie ici est malvenue. Parce qu'il faut, comprendre que leurs parents non seulement les offensaient, mais en plus se plaçaient ensuite dans la position de victime et les traitaient d'agresseurs, d'égoïstes, etc. Et avec le parent, l'enfant était toujours coupable, ou quasiment toujours coupable. Et dans les faits, aujourd'hui, cette configuration où vous avez toujours tort ne peut survenir qu'avec une personne qui vous place en position d'infériorité vis-à-vis d'elle. C'est impossible d'avoir toujours tort lorsqu'on est dans une relation d'égal à égal. Les torts sont partagés. Et guérir, c'est comprendre qu'ils peuvent ressentir et faire ce qui aurait provoqué la damnation de leur être jadis, et comprendre que mettre quelqu'un en colère est une expérience à laquelle ils peuvent survivre désormais. Parce qu'ils ont des capacités qu'ils n'avaient pas enfant face à un adulte. Il n'y avait pas match dans l'enfance. Un enfant face à un adulte, l'enfant perdra toujours. Donc rien de ce que vous faites ou vous abstenez de faire ne donne le droit à quiconque de vous maltraiter. Et il nous invite à rompre avec l'idée qu'un seul faux pas voudrait dire que l'on doit se retrouver éhonté, dévalué, maltraité. Il n'y a plus de faux pas qui justifient d'être dans cette position d'infériorité intrinsèque. Toute leur vie, on les a sous-estimés, on les a jugés comme étant d'un statut inférieur, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ils étaient OK avec l'idée qu'on les néglige, qu'on les moque, qu'on les titille. Mais ce statut inférieur est encore une autre raison pour laquelle l'éloignement de la cellule familiale est nécessaire, parce qu'il faut désormais prioriser comment on se sent, et non plus composer avec des stratagèmes inventés pour réussir à apprécier un parent narcissique. Donc ne plus mettre le parent au centre de son monde, apprendre à baser ses conclusions sur ce que l'on ressent, même si on nie notre réalité, même si on la questionne, même si on l'invalide, et puis comprendre qu'on a eu accès à nos parents sur l'idée que l'on a dû fabriquer d'eux-mêmes, ou qu'ils ont fabriqué pour nous, et non sur la manière dont ils nous faisaient nous sentir. Ils ont coupé le ressenti et ils ont mis une cassette. Aujourd'hui, on peut repérer comment les autres nous font nous sentir, indépendamment de leurs mots, et agir en conséquence. C'est vraiment du factuel. Comportemental. C'est réapprendre, c'est une rééducation, c'est comme apprendre à réutiliser des muscles qui ont été atrophiés. Et ce repositionnement au centre de sa propre expérience ne peut se faire que, nous dit l'auteur, que dans de nouvelles relations. Alors pourquoi c'est compliqué de s'imposer et de refuser la maltraitance ? Eh bien, parce qu'on a appris à craindre la perte du parent narcissique plus que l'abus lui-même. Tout ce qui nous aurait permis de nous sentir bien, constituait une menace à l'ego du parent malade. Et donc c'est pour ça qu'on a peur du rejet qui nous hante, et dans la nouvelle relation, on doit expérimenter l'inverse, c'est-à-dire apprendre à devenir assertif et à voir que le monde ne s'effondre pas, que la personne ne vous rejette pas, que la personne ne vous annihile pas. C'est vraiment un apprentissage sur le terrain, factuellement, dont le cerveau doit être témoin, pour le croire. Donc avant, il devait se critiquer, cet enfant, pour tenter de réduire la véhémence parentale, et aujourd'hui, l'idée, c'est de ne plus le faire. De ne plus asperger les gens de compliments pour ne pas les mettre en colère. C'est même cultiver un petit côté show-off qu'on n'aurait jamais pu montrer à un parent sinon on aurait été démoli. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, on peut croire que cette nouvelle audience saura se montrer appréciative des autres et de leur qualité, de leur exubérance, de leur caractère brillant. Donc exit le sentiment lancinant d'avoir fait quelque chose de mal, même lorsqu'on ne sait pas quoi. Exit l'idée de se dire que quelque chose va forcément capoter. Et exit donc l'auto-punition. L'auto-punition qui consiste à se rabaisser pour dire aux parents qu'il n'a pas à se sentir menacé par nous. L'auto-punition qui consiste à se dire que mes amis vont en avoir marre de moi, mon partenaire va m'abandonner. Parce que tout ça, ce sont des pensées d'auto-punition. Comme je ne suis pas convenable, comme je ne suis pas adéquat, eh bien je vais être puni. Et quelques idées pour défier les règles du parent narcissique pour terminer cet épisode. Eh bien, forcément se traiter avec amour, même si ce n'est pas familier, même si c'est exotique, mais faire ce qui avant vous aurait mis en danger, donc s'imposer, riposter, se mettre en colère, dire non, dire merde, faire preuve de patience face au sentiment d'être toujours en retard, et puis s'accorder du temps, non pas le temps standard que tout le monde doit prendre à guérir, mais le temps dont on a besoin de nous, dans notre situation, et comprendre que l'on a dû cacher notre respect de nous-mêmes parce qu'il ne fallait pas le montrer aux parents. On peut faire un exercice concret qui serait de demander à nos proches, à des gens sécures, de nous donner 3 raisons pour lesquelles ils nous respectent. Et ces raisons, les encadrer et les mettre sous nos yeux régulièrement pour rééduquer son cerveau. Ça peut être de demander à nos amis pourquoi ils pensent que nous sommes une bonne personne. Avoir un autre regard qui n'est pas le regard de la cellule contaminée familiale. Qu'est-ce qui les a attirés vers nous? Qu'est-ce qu'ils aiment spécifiquement en nous? Et c'est de cette manière que l'on va donc clôturer l'analyse du fabuleux livre du docteur Jay Reid, un livre qui fait vraiment écho et qui, j'espère, vous aura inspiré. C'est vrai que c'est un sujet assez activant, il y a beaucoup de ficelles, beaucoup de choses qui ressortent. On n'a pas l'habitude que le bouc émissaire, donc l'enfant intérieur en nous, soit à ce point compris, à ce point mis en lumière. Et pourtant, c'est un sujet extrêmement sérieux, parce que ces parents psychopathes et narcissiques font de nombreux dégâts. Des enfants qui, à l'âge adulte, vont développer des troubles dépressifs, qui vont développer des pathologies, qui vont être comme moi, TDAH. La réalité pour l'enfant, une fois qu'il a grandi, c'est ça. C'est pour certains la dépression, pour d'autres un syndrome de stress post-traumatique complexe, un trouble anxieux. Donc on en parle, ça paraît bien décrit, mais au quotidien, pour des tas de personnes, c'est une solitude à soi, c'est un corps déserté qu'il faut apprendre à réappréhender sans paniquer. C'est tout un tas de symptômes physiques, c'est un mode de dissociation dont il faut sortir, c'est-à-dire que tout d'un coup, guérir va passer par un moment extrêmement douloureux, pénible, de souffrance, pour se retrouver nez à nez avec la juste mesure de ce qui nous est arrivé. Et donc c'est tout cela, l'après-exposition aux parents narcissiques, au-delà du grand discours sociétal sur la sacro-sainteté des parents. Pour ceux qui ont eu le malheur de tomber sur des parents psychopathes, il est difficile de faire dans la moraline et dans les grands préceptes lorsque chaque seconde, lorsque chaque jour est imprégné des conséquences à long terme sur votre santé de ce qui vous est arrivé. Voilà, on arrive au terme de cet épisode sur Jerry, la bouc émissarisation et les scapegoat. J'espère que le sujet vous aura fait du bien, vous aura inspiré, aura répondu à plusieurs de vos questions. J'espère aussi vous retrouver la semaine prochaine sur un autre sujet qui est la codépendance, mais cela dépend de critères qui sont un petit peu détachés de ma volonté, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à partager, à liker, à envoyer vos messages aussi. Je vous souhaite une bonne semaine et j'espère vous retrouver très bientôt du côté de chez Swan. Au revoir.